Dépasser la police, dépasser la justice. La police n'empêche pas la criminalité. Les experts le savent, la police le sait, mais le public ne le sait pas. Pourtant, la police prétend qu'elle est la meilleure défense contre la criminalité et affirme sans cesse que si on lui donne plus de ressources, en particulier plus de personnel, elle pourra mieux protéger les communautés contre la criminalité. C'est un mythe. David Bailey, Police for the Future, 1996. L'élément qui différencie la police d'un gang armé est qu'elle s'ancre en tant qu'institution dans le processus de la justice institutionnelle. Là où un gang de rue agit avec violence pour ses propres intérêts ou ceux de ses leaders, la police agit avec violence pour la justice pénale. Remettre en question l'existence même de la police en tant qu'institution sociale, sans remettre en question l'ensemble du système pénal, ne fait pas de sens. Dans les démocraties représentatives, le système pénal repose principalement sur la logique de la punition. Lorsqu'il punit, le système pénal veut faire payer à une personne d'avoir transgressé une loi afin de l'empêcher de recommencer et de décourager autrui à faire de même. La souffrance infligée à la personne jugée coupable est censé rétablir un équilibre. Il faut compenser le crime par une souffrance que les juges et le code pénal en vigueur jugent équivalente. La fonction de la justice est de punir, et elle punit toujours par rapport à un contexte historique. Qu'il s'agisse de punir une fraude fiscale en Suisse en 2021, une falsification de papier sous l'Union soviétique en 1955 ou un avortement en Irlande en 2013, la logique est la même. Une autorité fixe un cadre légal à respecter. La police traque ceux et celles qui ne le respectent pas et la justice les punit. Puisqu'elle est punitive, cette forme de justice se concentre donc principalement sur la coupable. Et l'État développe ainsi continuellement un arsenal de punitions. Amende, jour-amende, travail d'intérêt général, administration pénitentiaire, enfermement administratif, peine de substitution, peine thérapeutique, psychiatrisation, déportation, inscription au casier judiciaire et ainsi de suite. L'abolition du système pénal me paraît être un enjeu central si l'on souhaite l'émergence d'une forme de vivre ensemble qui ne soit pas basée sur la coercition et l'autorité, mais sur la liberté individuelle et le care. Il existe de nombreuses pistes pour dépasser la justice institutionnelle. Beaucoup de courants politiques et sociaux en font la critique et expérimentent des manières concrètes de ce à quoi pourraient ressembler des sociétés sans police, tribunaux et prisons. L'abolitionnisme pénal, bien sûr, mais aussi le féminisme, l'anarchisme, l'antiracisme décolonial et plus spécifiquement des populations comme celle des apatistes du Chiapas, du Rojava en Syrie, ou de plusieurs tribus natives d'Amérique du Nord.
Chapitre 22. La justice transformative.
La justice transformative est une pratique développée pour répondre à des situations problématiques, oppressives et ou conflictuelles au sein d'une communauté sociale. Cette conception de la justice voit dans chaque conflit une problématique unique à résoudre en se focalisant sur les besoins de la victime et l'implication de la communauté concernée. Plutôt que de se focaliser sur le châtiment de l'auteur-autrice, l'importance est mise sur la transformation du préjudice, notamment en transformant les conditions sociales ayant rendu possible ce dernier. La victime endosse une part active et centrale tout au long du processus, tandis que la personne auteur de violence est encouragée à se responsabiliser de ses actes et à participer à la réparation des dégâts et blessures causés. La réparation des blessures et traumatismes subis et la critique des mécanismes d'oppression structurelle en sont une part importante.
Un exemple concret parmi d'autres. L'organisation Generation 5, basée à Oakland, aux USA, et active sur les thèmes de l'inceste et des abus sur enfants, base son travail sur la justice transformative. Elle y fixe les objectifs suivants. Premièrement, la sécurité, la guérison et la reprise de pouvoir pour les survivants-survivantes. Deuxièmement, l'agissement, la guérison et la responsabilisation collective de tout le milieu social touché. Troisièmement, la transformation des conditions sociales qui permettent et maintiennent les violences commises et les systèmes d'oppression structurelle. Quatrièmement, responsabilisation et transformation des personnes incestueuses.
Les gens parlent souvent de responsabilisation, quand ils, elles, veulent dire punition. Vous ne pouvez pas rendre quelqu'un d'autre responsable. Vous ne pouvez que prendre vos responsabilités. Mais il est possible de faire de l'espace pour voir si quelqu'un veut se montrer responsable. Myriam Keba.
Chapitre 23. Un travail sur la durée.
Attention, ce chapitre évoque des violences sexuelles. Il ne décrit toutefois pas d'actes explicites ou détaillés. L'apprentissage d'autres formes de réponse aux oppressions et aux violences interpersonnelles que celles de la justice institutionnelle est un processus qui prend place dans une longue temporalité. Pour dépasser les logiques de contrôle, de punition et de répression mises en place par les États, nous devons apprendre à réagir aux situations d'agression en d'autres termes qu'avec des concepts de faute, punition, vérité, droit et tout l'héritage du système pénal. Une difficulté majeure est que nous manquons de modèles de résolution de conflits. Les fictions qui montrent des résolutions de conflits où les personnes concernées agissent d'elles-mêmes sont presque uniquement des histoires où une personne, souvent masculine, va rendre justice elle-même, et la plupart du temps dans un bain de sang. Ici, il est question de vengeance et non de transformation collective et de responsabilisation des personnes auteurs de violences. Un tel apprentissage doit prendre forme dans nos communautés, réseaux, collectifs et regroupements humains respectifs. Il sera forcément accompagné d'erreurs, d'échecs, de remises en question et d'autocritiques. Pour illustrer un tel processus, prenons un exemple spécifique. Celui de la communauté punk anarchiste d'Amérique du Nord. Il s'agit d'un mélange entre une communauté d'esprit et une culture underground où les personnes se reconnaissent comme faisant partie de cette communauté, se retrouvent dans un partage d'idées, refus et résistance vis-à-vis des autorités, écologie, anticapitalisme, féminisme, etc. De pratiques, DIY, émeutes, récup de nourriture, et de lieux géographiques partagés. Concerts, manifestations, squats et centres sociaux autogérés. Au fil des années 1990, des femmes et survivantes réagissent de plusieurs manières contre le problème des agressions sexuelles bien présentes dans ce milieu. Des fanzines dans lesquelles des agressions sexuelles sont thématisées et les auteurs nommés sont distribués lors de concerts. Des groupes de discussion entre personnes concernées par ces agressions sont créés. Les communautés anarcho-punk des villes voisines sont averties contre des agresseurs récidivistes et dans certains cas, des personnes sont expulsées avec violence de cette subculture. À Portland, le collectif Hysteria fut l'un des premiers à tenter d'amener une réponse structurelle aux agressions sexuelles. Création et diffusion de contenu sur la thématique, organisation de conférences sur le sujet et mise en place de réseaux de soutien. Dans d'autres villes, des girls gangs se sont créés avec une ambition d'autodéfense et la concentration sur des actions offensives contre les auteurs de violences sexuelles. Néanmoins, la plupart de ces actions restent isolées et les survivantes d'agressions sexuelles essayant de thématiser leur vécu furent continuellement ignorées, stigmatisées et exclues avec le reproche d'accaparer l'attention nécessaire à des thématiques plus importantes et d'être responsable de divisions internes à la communauté. En réaction à ce constat, certaines anarchistes ont travaillé à sensibiliser leur communauté au thème des agressions sexuelles, notamment en y développant le concept du consentement. Au travers de revues, ateliers et conférences, fut débattue la question du soutien apporté aux victimes d'agressions sexuelles, du consentement et de la sexualité positive. Dans des groupes de masculinité critique, des hommes se sont organisés contre le sexisme de leur propre milieu, comme par exemple le collectif Dealing with Our Shit à Minneapolis en 2002. Un moment important fut le festival Pointless Fest en 2004 à Philadelphie, lors duquel les organisateurs, organisatrices annoncèrent publiquement que 3 femmes subirent des viols durant le festival. Des groupes furent créés pour soutenir les survivantes et pour chercher des pistes sur comment intégrer les agresseurs dans le processus de transformation. De ce mouvement, 2 collectifs, Philly's Piste et Philly Stand Up, existent encore aujourd'hui. Leurs actions portent sur le soutien aux survivantes d'agressions sexuelles et à l'intervention auprès des agresseurs-agresseuses. Avec le temps et ces différentes initiatives, les agressions sexuelles, le consentement, la justice transformative et la responsabilisation collective devinrent des sujets discutés et approfondis lors de presque tous les événements et rencontres anarchistes. Beaucoup de labels punk commencèrent à diffuser des fanzines et des brochures sur ces thèmes, des groupes de musique en parlèrent sur scène et dans leurs textes et dans beaucoup de villes se constituèrent des groupes de soutien aux survivantes et de justice transformative. À l'instar du contre-sommet du G20 à Pittsburgh en 2009, où les organisatrices d'événements de masse inclurent dans leur infrastructure des concepts comme les groupes awareness, permettant d'amener une réaction directe en cas d'agression. À ce jour, les concepts de consentement, de groupe de soutien et de justice transformative sont couramment utilisés dans la communauté anarchiste et punk d'Amérique du Nord. La parole autour des agressions sexuelles s'est libérée et beaucoup de cas d'agression ont été rendus publics avec des expérimentations de ce à quoi pourrait ressembler une réponse non institutionnelle à cette problématique. Dans certains cas, des auteurs d'agressions sexuelles ont pu être accompagnés dans une réflexion de longue durée sur leurs agissements. D'autres ont été exclus des espaces communs. Des brochures et des conférences ont permis d'échanger collectivement sur les différentes expériences de réponse aux agressions, leurs réussites et leurs échecs. Des livres sur la justice transformatrice ont été publiés et le concept de consentement a été exporté dans d'autres cercles sociaux et s'est largement répandu dans les milieux anarchistes. Le collectif Philly Stand Up propose aujourd'hui des formations à la justice transformative dans les hautes écoles et les universités. Ce que je cherche à montrer à travers cet exemple, c'est que le remplacement du recours à la police et à l'ensemble du système pénal, ainsi que la mise en place de nouvelles formes de réaction aux conflits et aux pressions interhumaines qui nous touchent, est une dynamique en mouvement constant. Il s'agit de désapprendre les logiques de la punition et de l'autorité et de se réapproprier notre propre pouvoir d'agissement sans médiation extérieure. Reprendre le contrôle de nos vies sans personne à qui obéir ni personne à qui commander est un processus à long terme qui nous accompagne dans toute notre vie. Les pistes sont là, il ne reste plus qu'à s'en saisir et reconstruire notre autonomie dans la manière de gérer des conflits.